VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 24 mars 2020. Eric Manirakiza à la présentation, voici d'abord les principaux titres. Nigeria, au moins 70 militaires tués dans une embuscade djihadiste. Plus de 60 migrants clandestins retrouvés morts dans un conteneur au Mozambique. Le saxophoniste Manu Dibango, père du seul Makossa, est décédé à 86 ans des suites d'une contamination au coronavirus. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed réclame au G20 150 milliards de dollars d'aide pour l'Afrique, dont les économies sont rendues vulnérables par le nouveau coronavirus. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Lourde perte dans les rangs de l'armée nigériane. Au moins 70 soldats ont été tués dans l'attaque de leur convoi dans le nord-est du pays, dans une région en proie aux violences du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Abdulrahman Dia.
Selon une source militaire, ces soldats sont morts dans une embuscade tendue lundi dans la région de Konduga, dans l'État du Borno. Les assaillants ont spécifiquement visé un camion chargé de lance-roquettes RPG et de grenades avant d'incendier le véhicule, a déclaré une autre source. 70 corps ont été retrouvés, mais le bilan pourrait être beaucoup plus important et l'opération de comptage est toujours en cours, selon la même source. Le convoi militaire était parti lundi matin de Maiduguri, la capitale du Borno, et se dirigeait vers des camps où sont basés des djihadistes, a expliqué un membre des milices civiles qui combattent aux côtés de l'armée nigériane. Les membres du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, une dissidence de Boko Haram depuis août 2016, multiplient les attaques contre les forces armées et ont tué plusieurs centaines de soldats nigérians. Le conflit entre l'armée nigériane et Boko Haram a fait au moins 35 000 morts et près de 2 millions de déplacés depuis 2009.
Plus de 60 migrants clandestins en provenance du Malawi ont été retrouvés morts ce mardi matin, vraisemblablement asphyxiés dans un conteneur intercepté dans le nord-ouest du Mozambique, n'est-ce pas, Ekiabatou?
Un camion venu du Malawi transportant des migrants clandestins présentés comme éthiopiens a été contrôlé sur le pont de Moussakana dans la province de Tété, a indiqué une source hospitalière. 64 personnes ont été retrouvées mortes, seules 14 ont survécu, a ajouté la même source en précisant que l'asphyxie est la cause probable de leur mort. Des images diffusées par une télévision locale montrent un enchevêtrement de corps sans vie empilés dans un conteneur posé sur un semi-remorque. Le Mozambique est considéré comme l'une des routes favorites des migrants clandestins, notamment venus d'Éthiopie, qui cherchent à rallier l'Afrique du Sud et sa mégalopole, Johannesburg, dans l'espoir d'y trouver du travail.
L'opposition du Malawi a appelé aujourd'hui ses partisans à faire grève vendredi pour obtenir la démission de l'incompétente présidente de la commission électorale après avoir renoncé à manifester pour cause d'épidémie de coronavirus. L'opposition a décidé de faire du 27 mars 2020 un jour de rage. Les partis d'opposition ont aussi annoncé leur intention de saisir la justice pour obtenir le départ de Jane Ansah. La commission avait proclamé la victoire du président sortant Peter Mutharika à l'issue du scrutin de mai 2019, mais la justice l'a annulé quelques mois plus tard en raison de fraude et ordonné une nouvelle élection. Lundi, la présidente de la MEC, Jane Ansah, a annoncé qu'elle aurait lieu le 2 juillet prochain. Les avocats des 17 détenus proches de l'ancien chef de la rébellion ivoirienne Guillaume Soro, dont 5 députés, ont demandé leur libération en raison des risques liés à l'épidémie de coronavirus, dans une lettre ouverte adressée au président ivoirien Alassane Ouattara. Nous vous demandons leur libération étant attendu qu'ils restent à la disposition de la justice, écrivent les avocats. La Côte d'Ivoire enregistre 25 personnes infectées. Le président Ouattara a décrété lundi soir l'état d'urgence. Le nouveau coronavirus a fait au moins 57 morts en Afrique, avec plus de 1780 cas d'infection, selon un bilan établi ce mardi. Des dirigeants du continent appellent à l'aide pour soutenir les pays africains affectés par la pandémie. Les derniers développements avec Jacques Aristide.
Le Premier ministre éthiopien demande au G20 de soutenir les économies africaines rendues vulnérables par le Covid-19 en allégeant leurs dettes et en préparant un plan d'aide financière d'urgence d'une valeur de 150 milliards de dollars. Pour Abiy Ahmed, la pandémie pose une menace existentielle aux économies africaines. Pour leur part, les chefs d'État ivoiriens et sénégalais ont décrété l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu dans leur pays avec un confinement progressif des populations en Côte d'Ivoire pour lutter contre la maladie. Le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle d'octobre prochain, s'est placé lui-même en confinement après avoir été en contact récemment avec une personne déclarée positive au Covid-19. En Afrique du Sud, pays le plus touché sur le continent africain, l'armée va être déployée pour faire respecter le confinement national de 3 semaines à compter de ce vendredi. Confinement en Algérie également, alors qu'en Égypte, un couvre-feu nocturne de 2 semaines entre en vigueur à partir de ce mercredi. Pour les experts, la très grande faiblesse des services de santé en Afrique subsaharienne laisse craindre que la pandémie puisse être dévastatrice. Et puis, le monde musical en deuil, l'Afrique et d'autres parties de la planète pleurent la légende camerounaise de l'afro-jazz, Manu Dibango, décédé ce matin des suites du Covid-19.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Quelques 6 millions de masques destinés à l'Allemagne pour faire face à la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus ont disparu d'un aéroport du Kenya à la fin de la semaine dernière, a annoncé ce mardi une porte-parole du ministère allemand de la Défense. Ils étaient censés être livrés à l'Allemagne le 20 mars, mais la provenance n'a pas été précisée. Les autorités tchèques avaient saisi le 17 mars 680 000 masques et des appareils respiratoires dans un entrepôt d'une entreprise privée de Lovosic au nord de Prague. Une partie de ces masques était en fait en don chinois destiné à l'Italie, le pays européen le plus touché par la pandémie. Près de 2 milliards de personnes dans le monde sont appelées à rester confinées chez elles pour éviter la propagation du Covid-19. Qui a fait au moins 16 900 morts sur plus de 386 000 cas déclarés. Les précisions de Nathalie Barge.
La ville chinoise de Wuhan, berceau de l'épidémie de Covid-19, va lever le 8 avril les restrictions aux déplacements après plus de 2 mois de confinement. Les habitants du reste de la province de Hubei pourront sortir des frontières provinciales dès mercredi. Les autorités sanitaires italiennes ont appelé à rester vigilants malgré la baisse du nombre de nouveaux cas la veille, exhortant la population à respecter plus que jamais les restrictions. L'Italie compte plus de 6 000 morts pour 64 000 cas déclarés. La Chine, où l'épidémie a débuté, dénombre plus de 3 200 décès pour environ 81 000 cas. Deuxième pays le plus touché en Europe, l'Espagne a enregistré un nouveau record de morts en 24 heures avec 514 décès supplémentaires, ce qui porte le bilan total à 2696. Le gouvernement français a annoncé l'interdiction des marchés et prévenu que le confinement pouvait encore durer quelques semaines. Les Britanniques doivent aussi rester chez eux, sauf nécessité. En Amérique centrale, Cuba met en quarantaine tous les touristes. L'ONU a demandé que les sanctions frappant l'Iran, fortement touché par le coronavirus, et d'autres pays comme le Venezuela, Cuba et la Corée du Nord, soient assouplies ou suspendues en cette période cruciale de pandémie.
Les États-Unis, où le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus explose, pourraient bientôt dépasser l'Europe et devenir l'épicentre de la pandémie, a prévenu aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La pandémie s'accélère, mais sa trajectoire peut être modifiée, estime l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui appelle les pays à tester tous les cas et à placer en quarantaine leurs contacts proches. Le déplacement à Kaboul lundi du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui souhaitait aider à mettre fin à la crise politique afghane, a fait chou blanc. Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah se dispute toujours le poste de président. Après l'échec de son intervention, Mike Pompeo a annoncé que l'aide américaine à l'Afghanistan serait immédiatement réduite d'un milliard de dollars et d'un milliard supplémentaire en 2021 si l'impasse se poursuivait. Ashraf Ghani a tenté de rassurer la population afghane, assurant que la réduction de l'aide américaine n'aura aucun impact direct sur les secteurs clés, car le gouvernement a des plans pour les situations inattendues. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, qui vous est présentée ce soir par Manit Talani.
En République démocratique du Congo, la mine Kamoto Copper Company de Glencore a rapatrié 26 employés étrangers à cause de l'épidémie de coronavirus, révèle l'agence Reuters. Charles Koumbi, responsable du syndicat Industrials, cité par Reuters, a déclaré que ces travailleurs ont été renvoyés chez eux en congé technique et qu'ils reprendront leur travail une fois que la situation reviendra à la normale. Au Tchad, la raffinerie de Diarmaya arrêtera provisoirement sa production à partir de ce 24 mars en raison de la surproduction, publie le site Al-Ouida. Selon le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Mahamat Hamid Koua, cet arrêt permettra de réduire la quantité des produits pétroliers en surplus par rapport au stockage prévu. Il promet qu'il n'impactera pas l'approvisionnement auprès de la raffinerie. D'après le site Al-Ouida, l'autorité de régulation du secteur concerné est invitée à suivre de près la distribution afin que les produits soient disponibles à tout moment et pour éviter tout désagrément. Pour terminer, l'Algérie réduira ses dépenses publiques pour contrer l'effondrement des cours du pétrole, sa principale ressource, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Le budget de fonctionnement de l'État sera réduit de 30% sans toucher au salaire des fonctionnaires. Les importations seront réduites à 31 milliards de dollars contre 41 milliards. En outre, l'Algérie n'aura plus recours aux cabinets d'expertise étrangers afin d'économiser 7 milliards de dollars par an, selon un communiqué de la présidence.
Passons sans transition à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Eh bien, les JO de Tokyo 2020 reportés à 2021, Yacouba.
J'ai proposé de les reporter d'environ un an et le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a accepté à 100%, a déclaré le premier ministre japonais Shinzo Abe. Après une conférence téléphonique avec M. Bach, président du CIO, il ne manque plus que la validation du comité exécutif du Comité international olympique pour entériner ce report. C'est une première pour des JO de l'ère moderne en temps de paix. Auparavant, seuls les deux conflits mondiaux du XXe siècle ont entraîné le report technique puis l'annulation d'Olympiades. C'est un coup dur pour le Japon qui se préparait depuis des années à accueillir le plus grand événement sportif de la planète du 24 juillet au 9 août, suivi des Paralympiques du 25 août au 6 septembre.
Les réactions fusent de par le monde après ce report.
Les conséquences financières ne sont pas la priorité. Il s'agit de protéger des vies, a laissé entendre Thomas Bach, président du CIO. Ça nous libère d'un poids, s'est réjoui le français Renaud Lavillenie. Multiple médaille olympique de la perche, ajoutant, je cite, « On va pouvoir arrêter cet entraînement à bricolage. La Fédération internationale de football a salué le report des Jeux olympiques de Tokyo, assurant que la priorité devait être la santé des personnes concernées par les Jeux face à la pandémie de coronavirus. »
En football, la Fédération malienne de football réduit son personnel.
Cette décision intervient une semaine après que la FEMAFOOT a suspendu ses compétitions jusqu'à nouvel ordre. Les détails avec Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
La mesure est rentrée en vigueur à compter de ce lundi 23 mars et ce jusqu'au dimanche 29 mars prochain. En d'autres termes, la décision durera une semaine. Et c'est le personnel jugé incontournable dans le dispositif de l'instance dirigeante du football malien qui va seulement travailler. Il s'agit du secrétaire général et son adjoint, de la secrétaire particulière du président de la FEMAFOOT, de la secrétaire du secrétariat général, d'un coursier, également du directeur financier. Soit au total 6 personnes, le reste du personnel ne sera pas confiné, parce que l'heure n'est pas pour le moment au confinement au Mali, mais ne se rendra pas non plus au siège de la Fédération malienne de football au cours de la semaine. La mesure va-t-elle perdurer après les 7 jours Attendons donc de voir. Tout ce qu'on peut dire, la FEMAFOOT a quand même pris le devant avant que les autorités maliennes ne prennent une décision allant dans le même sens. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza. À présent, les dossiers du jour. Le monde de la musique pleure la légende camerounaise de l'afro-jazz Manu Dibango, décédé des suites du Covid-19. Emmanuel Njoke Dibango est né le 12 décembre 1933 à Douala au Cameroun, dans une famille protestante très stricte. Mon oncle paternel jouait de l'harmonium, ma mère dirigeait la chorale. Je suis un enfant élevé dans les Alléluia. Ça ne m'empêche pas que je suis africain, camerounais et tout ça, confia encore cette haute silhouette au crâne glabre. Son père, fonctionnaire, l'envoie en France à l'âge de 15 ans dans l'espoir d'en faire un ingénieur ou un médecin. Pour un témoignage, Arzuma Compaoré a joint ici à Washington le journaliste George Collinet.
C'est en 1969 que nous nous sommes rencontrés. Et lorsque je suis rentré en France en 1972, après la mort de mon père, la première chose que je voulais voir, c'était rencontrer Bané et surtout aller rendre visite à Decca, qui était la grande société de disques de la musique africaine et qui m'envoyait des tonnes de disques pour les promouvoir sur mon émission. Et arrivé à Decca, je rencontre Madame Le Couviour, qui était producteur de la grande productrice de la musique africaine chez Decca. Et pendant qu'on discutait, entre Manu Dibango, il disait « Ah là là, Georges, c'est toi oh, !» oh, oh. C'est avec son rire extraordinaire. Et il rentre donc avec Coco, et puis nous avons renoué à ce moment-là. Et puis je dis « Oui, bon, écoutez, j'ai un truc là que j'ai écrit qui s'appelle « The Dirty Music ». Et que j'aimerais bien pouvoir produire, là, ce serait une bonne chose. Et Madame Le Couviour, Rolande, elle s'appelait Rolande Le Couviour, me dit, bah, écoute, oui, pourquoi pas, on peut faire quelque chose. Manu, qu'est-ce que tu en penses? Manu, bah, il dit, ouais, je vais écrire la musique pour ce truc. C'était le rap avant le rap. Pendant qu'il faisait ça, il avait du temps pour faire une face B du disque, et c'est à ce moment qu'il a composé sur place le truc, le fameux Soul Makossa, qui a eu le succès que nous connaissons. Manu, c'est la musique. Manu, c'est le Cameroun. Manu, c'est la musique africaine. Manu, c'est toute l'inspiration africaine qui a été transformée par le jazz en particulier. Et par les musiques noires américaines, mais il a joué quand même, c'est un des musiciens du Grand Calais. Le Grand Calais, c'est indépendance, tcha-tcha, ça remonte très très loin. C'est un monsieur qui représentait l'âme de la musique africaine, qui représente toujours, parce que je crois qu'il est toujours vivant, il va rester vivant pour nous, pour la postérité. Il représente l'âme, la musique de l'âme africaine. Il mérite des obsèques nationales en France et en Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Depuis ce mardi à minuit, les Sénégalais vivent sous le régime de l'état d'urgence, assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin, des mesures exceptionnelles prises par le président Macky Sall pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans le pays. Les Sénégalais apprécient globalement ce décret présidentiel, mais certains craignent les effets de ces mesures trop restrictives. de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Le confinement partiel est maintenant de rigueur au Sénégal avec l'état d'urgence et le couvre-feu décrété par le président Macky Sall. Une mesure naturelle selon Cheikh Sow, un chef de famille de 53 ans. Pour lui, cette mesure s'est imposée à cause de l'insouciance et de l'indiscipline de certains Sénégalais qui n'ont pas respecté les premières recommandations, notamment l'interdiction de rassemblement.
Alors, comme si c'était que les Sénégalais n'ont pas cru cette maladie. Mais vu l'éducation du Sénégalais, qui réellement n'arrive jamais à obéir, le manque d'éducation, qu'ils n'ont pas respecté vraiment ces mesures qu'il avait profilées. Il a préféré tenir un discours tout en faisant savoir aux Sénégalais que l'heure est grave. Bien sûr, l'heure est grave. Parce que de jour en jour, on voit une maladie qui monte en allure.
Pour freiner cette propagation du Covid-19, des mesures fortes ont donc été prises, mais elles vont malheureusement avoir un impact sur les couches défavorisées de la population. Sohna Maguette Ndiaye, ménagère, affirme que cela risque de pénaliser ceux qui vivent au jour le jour, même si 50 milliards d'aides alimentaires d'urgence sont annoncées.
Je pense que ce sera trop difficile pour nous, mais il est important de se resserrer la ceinture et de s'en remettre à Dieu. Et ceux qui ont les moyens peuvent faire des provisions, stocker cela dans les réfrigérateurs. Et malheureusement pour d'autres, ce sera très très compliqué. Mais aussi, il faut savoir que le président a pris ses mesures pour notre santé et notre bien-être. Donc il faut que chacun fasse des sacrifices, que chacun de nous prenne ses responsabilités. Et je le dis encore une nouvelle fois, ce sera très difficile car nous vivons au quotidien des difficultés pour prendre en charge nos familles et nous ravitailler dans les marchés.
Du côté des PME également, on s'inquiète de la tournure des événements malgré les 1000 milliards de francs CFA qui vont être mobilisés pour aider les entreprises. Madame Traoré, jeune entrepreneur dans le domaine des multiservices, salue la pertinence des mesures annoncées par le chef de l'État, mais doute de l'accès aux fonds pour des entreprises comme la sienne.
C'est un point que je ne comprends pas trop. Je ne sais pas comment il va se prendre, en tout cas. Moi, je ne pense pas personnellement que je serai concernée et je ne sais pas comment il compte, en tout cas, partager ces 1000 milliards. Beaucoup de Sénégalais pensaient au confinement général. Mais bon, il a pensé à l'état d'urgence et surtout à un couvre-feu à partir de 20h. Donc c'est quelque chose qui ne devrait pas empiéter un peu sur notre travail du moment où nous travaillons de 8h à 17h. Donc sur ce, je dirais que ça n'empiète pas trop sur notre travail.
Au Sénégal, la lutte contre le Covid-19 a pris une nouvelle tournure avec l'instauration de l'état d'urgence et des mesures qui l'accompagnent. Les Sénégalais sont globalement satisfaits des annonces du chef de l'État Macky Sall, mais ils attendent tous de savoir les conditions précises d'application de ces mesures et leur impact réel sur leur vie personnelle et professionnelle. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Plusieurs organisations humanitaires ont averti que l'impact de la pandémie du Covid-19 dans les différents camps de réfugiés dans le monde aurait un impact dévastateur. Les Nations Unies estiment qu'il y a plus de 30 millions de réfugiés dans le monde, dont beaucoup vivent dans des conditions précaires qui favoriseraient la transmission du coronavirus. Alors que les pays riches luttent pour faire face à la pandémie, des experts de santé publique alertent sur les conséquences dramatiques qu'une épidémie de coronavirus pourrait avoir au sein de communautés parmi les plus vulnérables du monde. Un sujet de Henry Ridgecoel, récit signé Claire Morin-Gibour.
Partout dans le monde, les autorités sanitaires demandent aux gens de rester chez eux, de se tenir éloignés des autres et de faire de l'hygiène une priorité. Mais comment ces règles peuvent-elles être appliquées dans un camp de réfugiés? Beaucoup de réfugiés sont souvent entassés dans des camps et cela fait une grande différence pour la transmission, souligne le professeur Sullivan, spécialiste santé et conflits au King's College de Londres. L'accès à l'eau et à l'assainissement fait également une grande différence. Au Bangladesh, le Cox's Bazar abrite 900 000 réfugiés qui ont fui la violence au Myanmar et qui ne connaissent pas tous le nouveau coronavirus. J'ai oublié le nom du virus, nous a confié un réfugié Rohingya. J'ai entendu dire que la maladie est présente dans différents pays, que des gens meurent. Il faut aussi se laver les mains. C'est un bon conseil, mais les rumeurs ou les fausses informations circulent aussi. Une femme réfugiée Rohingya raconte que cette nouvelle maladie handicape les mains et les pieds, que les blessés se mettent à baver et à aboyer comme les chiens. Les autorités du camp essayent de filtrer tous les visiteurs et les nouveaux arrivants. Les travailleurs humanitaires étrangers doivent surveiller leur état de santé, explique le docteur Kamal Hossein, commissaire adjoint du Cox's Bazar. Il ajoute que les nouveaux employés ne peuvent plus venir de l'étranger. Le camp de Kanke en Irak abrite 15 000 réfugiés yézidis. Des programmes de sensibilisation et de prévention contre le Covid-19 ont été donnés par la fondation Amar. Pour le professeur Sullivan, de nombreux réfugiés et déplacés vivent dans des camps de fortune, très loin de toutes sortes d'aides officielles extérieures, ce qui les rend très vulnérables. Cela comprend les centaines de milliers de personnes qui ont fui le conflit syrien dans la province d'Idleb. Des milliers de migrants sont coincés dans des camps de fortune à la frontière gréco-turque. Beaucoup d'autres vivent dans des camps surpeuplés sur les îles grecques et certaines ONG appellent à les évacuer d'urgence. Au Kenya, le camp de Kakuma abrite près de 200 000 réfugiés où, selon un témoignage, rien n'a été fait jusqu'à présent pour sensibiliser au nouveau coronavirus. De nombreux camps de réfugiés se trouvent dans des pays dont les systèmes de santé sont insuffisants ou manquent de ressources, comme au Kenya, au Bangladesh, en Irak ou au Liban. Même les pays les plus riches ont du mal à faire face au Covid-19. La propagation du virus dans des camps de réfugiés ou de déplacés pourrait avoir des conséquences catastrophiques.
Dois-je porter un masque ? C'est la question que nous répondons aujourd'hui dans le cadre de notre série « Questions sur le Covid-19 ». Salwa Jafari a lu pour vous les recommandations de l'OMS. Suivez.
Dois-je porter un masque pour me protéger ? Voici la réponse de l'Organisation mondiale de la santé. Portez un masque uniquement si vous êtes malade avec des symptômes de Covid-19 ou si vous prenez soin de quelqu'un qui pourrait avoir le Covid-19. Le masque facial jetable ne peut être utilisé qu'une seule fois. Si vous n'êtes pas malade ou ne soignez pas quelqu'un qui est malade, vous perdez un masque. Il y a une pénurie mondiale de masques, donc l'OMS exhorte les gens à utiliser les masques à bon escient. L'OMS recommande l'utilisation rationnelle des masques médicaux pour éviter le gaspillage inutile de ressources précieuses et une mauvaise utilisation des masques. Les moyens les plus efficaces pour vous protéger et protéger les autres contre le Covid-19 sont de vous nettoyer fréquemment les mains, de couvrir votre toux avec l'avant-bras et de maintenir une distance d'au moins 1 mètre des personnes qui toussent ou éternuent. Comment mettre, utiliser, enlever et éliminer un masque ? Avant de toucher le masque, se laver les mains avec un désinfectant à base d'alcool, du savon et de l'eau. Prenez le masque et inspectez-le pour détecter des déchirures ou des trous. Trouvez le côté supérieur où se trouve la bande métallique. Assurez-vous que le bon côté du masque est tourné vers l'extérieur. Placez le masque sur votre visage, pincez la bande métallique ou le bord rigide du masque pour qu'il épouse la forme de votre nez. Tirez le bas du masque pour qu'il couvre votre bouche et votre menton. Après utilisation, retirez le masque, retirez les boucles élastiques de derrière les oreilles tout en gardant le masque loin de votre visage et de vos vêtements pour éviter de toucher les surfaces potentiellement contaminées du masque. Jetez le masque dans un bac fermé immédiatement après utilisation. Procédez à l'hygiène des mains après avoir touché ou jeté le masque. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool ou, s'il est visiblement sale, lavez-vous les mains à l'eau et au savon.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gallimard avec Michel Joseph et Joselle Morissin. À la présentation, Eric Madirakidza. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Excellente soirée à tous. Au revoir.